France Info.
Bonjour Éric-Antoine.
Bonjour Élodie.
Vous êtes littéralement le plus grand magicien du monde, vous mesurez 2m07. D'ailleurs, si on reste sur cet indice de grandeur, je pense que vous êtes aussi l'un des plus grands humoristes et animateurs de la télévision du monde. Plus sérieusement, ce qui est certain, c'est que vous êtes le magicien préféré des Français avec comme arme de séduction massive votre gentillesse, votre attention, votre bienveillance et votre curiosité associée à un émerveillement qui finalement vous colle à la peau et vous accompagne depuis votre premier tour de magie réalisé très tôt, après qu'un magicien vous ait montré des tour de magie lors d'un repas de famille, avant le divorce de vos parents, je le précise. Il vous a montré ce jour-là que la magie avait ce pouvoir de réunir des gens, surtout quand ça ne va pas.
Oui.
Vous publiez le livre Le Dictionnaire Jubilatoire de la Magie et de l'Illusion chez HarperCollins, l'occasion pour vous d'avouer sans aucune torture que vous êtes avant tout un escroc.
Oui.
Mais vous précisez quand même que vous êtes un escroc honnête.
C'est ça. L'escroc honnête, c'est ce paradoxe de ce métier, parce que vous venez me voir pour être escroqué, pour être illusionné, et pour quelque part oublier le temps d'un instant que les règles de la physique sont absolument immuables. D'ailleurs, le sont-elles ? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Elles ne le sont pas. L'histoire prouve qu'elles ne le sont pas, mais le magicien prouve qu'elles ne le sont pas dans un temps court. Et ça, c'est assez chouette. Donc, ce qui veut dire que si le magicien, qui est un grand couillon comme tout le monde, mais moi en particulier, peut transformer le monde, ça veut dire que vous aussi, quand vous pouvez le faire. Je pense qu'il y a une envie de libération quand on va voir un magicien. Alors, il y a deux types aussi de magiciens. Moi, il y a l'attitude du magicien que j'aime pas trop. C'est celui qui se la pète, qui dit regardez ce que je sais faire que vous ne savez pas faire, qui a un truc un petit peu sur la fascination. Et d'ailleurs, je pose toujours les fans à l'émotion, c'est-à-dire la fascination, l'émotion, les fans, c'est ceux qui regardent un artiste et qui font oh, il est incroyable, comment je fais pour être pour lui. Et je trouve que moi, j'aime bien l'attitude de l'émotion, c'est d'être d'égal à égal avec l'artiste qu'on regarde. Et on perçoit le parcours, on perçoit les failles, on s'identifie à tout ça et ça nous inspire et ça nous donne envie d'une rencontre avec l'artiste et l'œuvre et aussi d'une rencontre avec nous-mêmes. Et donc, oui, c'est ça que je cherche.
Là, vous nous racontez la petite histoire de la magie avec finalement ces artistes illusionnistes, qui ont écrit d'ailleurs les lettres de noblesse de cette spécialité. Ce qui est assez fascinant, c'est que vous nous prenez par la main, certes, mais vous nous expliquez quand même que la magie, elle évolue. Elle est tout le temps en train d'évoluer.
Absolument.
Ça, c'est important de le préciser parce qu'on s'est souvent, très longtemps, arrêté à Houdini, en se disant, voilà, il y a des trucs.
L'âge d'or de la magie, qui est en effet la fin du 18e, le début du 19e, où on a les premières grandes stars mondiales de la magie. Avant Houdini, il y avait Robert Houdin, qui est un Français, Jean-Eugène Robert Houdin, qui a créé la magie moderne, et Harry Houdini, qui est devenu la grande star mondiale de la magie, qui toutes les cours du monde se l'arrachaient. Et c'est vrai qu'il y a eu cet âge d'or extraordinaire, où les magiciens étaient aussi, faisaient ce qu'on appelle la physique amusante. C'était les premiers à avoir des notions d'électricité, à mettre des images de cinéma dans leur spectacle, à travailler sur les effets spéciaux, d'où Georges Méliès aussi, un des premiers cinéastes inventeurs des effets spéciaux, qui était magicien. Et donc, il y a eu un moment où les magiciens, par leur savoir un peu à 360 degrés de mécanique, d'ingénierie, d'électricité, étaient ceux qui étaient les plus en connaissance finalement de la science de l'époque. Et là, bon, là, ça a complètement explosé. Maintenant, non, plus du tout. Maintenant, nous sommes des ringards qui ne connaissons rien à la physique quantique, que pourtant j'adore.
Quand on fait de la médecine, on prête serment, ce fameux serment d'Hippocrate.
Ouais.
Et vous, c'est pas que ça devient un serment d'hypocrite, mais surtout, il y a...
Il y a
une règle de
J'aurais
conduite.
J'aurais dû l'écrire, celle-là.
Ce qui est fou, surtout, c'est qu'il y a une règle de conduite, il y a une sorte de code. Quand on est magicien, c'est de ne surtout pas révéler ses tours. Et c'est exactement ce que vous ne faites pas.
Oui, parce que, en fait, le secret m'insupporte. Je crois que c'est un truc familial. Je venais d'une famille, ma mère était psy. Et je pense qu'elle est devenue psy pour soigner sa propre famille, pour arrêter des cycles comme ça de secrets qui sont de non-parole, de non-écoute et non-expression. Et elle a vraiment choisi le travail inverse, c'est-à-dire de s'exprimer et d'aller chercher au maximum le secret, les monstres dans les placards, le caca au fond de soi, ces petites odeurs d'égout que tout le monde ne veut pas voir. Et donc, c'est bizarre d'être magicien qui a un métier de secret, alors que je déteste le secret. Je crois que tout le monde dit oui, je fais un mensonge pour protéger l'autre. Ce n'est pas vrai. On ment pour se protéger soi avant tout, et pas pour protéger l'autre. Donc, je pense que le mystère est merveilleux. C'est-à-dire, le mystère, c'est la question qui n'a pas de réponse et qui est sans fin. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la vie? Le sens de la vie? Le secret, c'est ce qui est voilé, ce qui est caché. D'ailleurs, il y a la seule déesse qui existe du mystère, c'est une déesse égyptienne qui s'appelle Isis et qui dit sur le fronton, le frontispice du temple d'Isis, il y a écrit « Nul jamais ne soulèvera mon voile ». Parce qu'en fait, le mystère avance dévoilé, alors que le secret, lui, est voilé. Le mystère est infini, le secret, lui, il est fini et il amène toujours un petit côté pervers. Et donc, c'est vrai que je trouve que de dévoiler des secrets, y compris dans ce livre, c'est une manière de donner aussi envie à découvrir cet art. Parce que c'est un art qui est assez génial, c'est un art de rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école de magie, donc tu rentres dans cet art, tu observes observes les copains et tu dis comment ça marche. Donc s'il a volé, qu'il est à 3 mètres du sol, que le rideau est noir derrière, qu'il est sur le côté, qu'il a cette position, qu'il ne bouge que selon un angle. Et donc là, tu te dis, bon, alors ça veut dire que le point d'équilibre est là. Donc si le point d'équilibre est là, comment il est tenu? S'il est tenu, est-ce que c'est des fils? Est-ce que c'est un câble? Est-ce que c'est un bras métallique? Et donc, tu fais tout à l'envers. Tu démontes tout. Tu passes ta vie à chercher comment ça marche quand t'es magicien. Et le mystère, c'est finalement ce qu'on passe notre vie aussi à faire, donner du sens à nos vies. Il y a des parallèles comme ça, c'est chouette.
Il y a un vrai besoin d'émerveillement chez vous.
Ah oui, oui.
De curiosité,
oui.
Très optimiste d'ailleurs, ça c'est vraiment la partie de votre mère, c'est ce qu'elle vous a légué.
Oui.
Vous étiez très proche d'elle d'ailleurs.
Oui.
Et ce qui est assez fou, c'est cette capacité que vous avez aussi à expliquer que c'est un énorme travail que d'être magicien. Et on le voit d'ailleurs dans vos yeux, même quand vous êtes jury, qu'il y a un magicien qui arrive. Déjà, on a l'impression d'être face à un enfant qui va découvrir un nouveau tour. Mais surtout, il y a toujours cet émerveillement, ce respect de l'autre.
Oui.
C'est vrai que vous le décrivez, la magie pour en faire. Il faut la fabriquer. Il y a des meubles d'un côté dans lesquels on range les vêtements et la magie, ça permet de ranger ses émotions.
Ouais.
Ça vous a donc protégé et sauvé, la magie ?
Ah ouais, complètement. C'était au début... Enfin, le théâtre m'a sauvé d'abord. Hein. La première chose, c'est vraiment quand j'ai découvert les textes, que j'ai commencé à travailler mes premiers personnages. En fait, c'est là où j'ai pu commencer à exprimer mes émotions. Et puis, au début, en fait, c'est comme de la maïeutique. C'est très socratien, en fait, finalement, très platonicien. C'est-à-dire que quand tu travailles un personnage, au début, tu t'accouches de toi. C'est-à-dire, il t'aide à voir ce que tu es et ce que tu n'es pas. Quand tu travailles Roméo, tu te sens moins prêt à aller jusqu'au bout de l'amour comme lui va. Et donc, tu vois comment toi, tu aimes. Quand tu travailles Othello, ben, t'as pas envie de buter aussi comme Othello a envie de buter, voilà, par amour, etc. Donc, l'un se tue, l'autre tue. Et donc, entre ces deux extrêmes, il y a ta manière d'aimer. Puis, au bout d'un moment, tu t'accouches de toi, tu découvres qui tu es. Moi, j'ai découvert ma folie, ma singularité. J'ai découvert que j'étais pas si couillon que ça. L'école m'a tué. L'école m'a empêché de découvrir qui j'étais. L'école m'a frustré de ma singularité, m'a frustré de mon intelligence, vraiment. Et le théâtre m'a permis de découvrir ce que j'aimais, ce qui me passionnait, ce qui me rendait heureux. Et c'est ma maman, en effet, qui m'a dit, mais va faire un pas de côté vers le théâtre. Et elle m'a dit, tiens, il y a ce prof qui est intéressant et qui était une rencontre exceptionnelle pour moi. Et la magie, ça m'a émerveillé depuis ma plus tendre enfance dans cette possibilité que la réalité n'est pas ce qu'elle paraît être. Et ça, c'est génial de se dire qu'on peut changer le réel. C'est tellement dur, le réel. Donc, le changer, voilà. Donc, il y a un double truc. C'est et l'illusion et un retour vers une vérité. C'est-à-dire que ça t'enlève tes freins de dire c'est pas possible. Je me permets une dernière digression parce que je sais que je suis très long dans mes réponses, mais à chaque fois, j'ai besoin de digresser. J'ai eu une prise de conscience il y a presque 20 ans de ça quand j'ai commencé la magie. Je mettais une frontière très très nette et très très claire entre la notion du possible et la notion de l'impossible. J'ai comme un mur et j'ai vraiment rendu ce mur réel dans mon cerveau, dans ma tête, dans mon esprit. Et je me suis dit, mais et si tu commences à gratter? Et si tu grattes? Et peut-être le mur est trop dur, mais peut-être que si tu passes par-dessus, par-dessous, peut-être que il y a des interstices. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une perméabilité entre ces deux notions. Et que j'avais des croyances limitantes qui m'empêchaient de croire que j'allais réussir, que j'étais pas si couillon, que j'allais m'en sortir sur plein de plans émotionnels, intellectuels, professionnels. Et en fait, c'est la magie m'aide à ça. C'est-à-dire qu'elle m'aide à me rendre compte que l'impossible est possible. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est fameuse phrase, je crois que c'est dans Huckleberry Finn. Et donc j'adore ça.
En tout cas, la magie, elle vous accueillit très tôt. Hein. Elle vous a permis quand même aussi d'affronter cette adolescence. C'est vrai que pendant l'adolescence, on est souvent traversé par des émotions qui ne sont pas forcément toujours positives.
Mmh.
Vous étiez totalement engoncé dans ce corps, et pour cause, parce que vous étiez anormalement grand par rapport à votre âge. On sait à quel point un ado peut être diabolique avec un autre, donc vous avez vraiment... Mais vous avez décidé de transformer ça en quelque chose de positif. Et parce que vous étiez alité, parce que vous aviez des difficultés, d'ailleurs, vous aviez même peur de tout casser à certains moments.
Je n'arrêtais pas de tout casser.
Vous êtes concentré sur ça, sur l'envie de maîtriser cet art.
En fait, vous le racontez de la manière que j'aurais pu le raconter il y a 10 ans, parce qu'il y a une espèce de prise de décision, on se prend en main, et puis finalement, c'est beaucoup plus inconscient que ça, c'est beaucoup plus invisible que ça. C'est-à-dire que j'avais une envie de vibration, j'avais une envie d'autre chose. Je n'ai pas dit, tiens, je vais transformer mon corps en un atout. Non. Non, c'est juste que je suis rentré au théâtre et grâce au théâtre, je me suis vu sur scène. Et sur scène, on te voit, quand tu es dans la salle et que tu regardes quelqu'un sur scène, tu les vois des pieds à la tête. Et donc, si tu n'habites que ton visage et tes mains, qui est l'habitude de la plupart des êtres humains, bah, tu ne peux pas être au théâtre. Donc, j'ai appris à intégrer le corps. J'ai appris à jouer avec. Et je m'en suis rendu compte que ce corps de 2 mètres, de plus de 100 kilos, il est intéressant. C'est comme un dessin. D'ailleurs, mon premier personnage de magie, c'est cette longue cravate rose, ces costumes trop grands, les cheveux en l'air, je me suis dit en un Une fois, tu me vois, tu te dis, t'as vu le magicien, lequel? Bah, tu sais, le très grand, avec les cheveux en l'air, la cravate rose. Et donc, on savait que c'était moi. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait des intérêts à avoir ce corps là où il y avait quand même pas mal de désavantages.
Mais surtout que vous avez imposé, vous êtes imposé très vite. C'est-à-dire qu'on vous écoutait et on regardait davantage quand c'était vous que quand c'était vos camarades de jeu. Hein.
Ouais,
même
ouais,
quand vous ratiez, tout le monde voyait ce que vous étiez en train de faire.
Ouais.
Il y a toujours eu chez vous ce besoin de transmission aussi. Vous êtes d'ailleurs parrain d'une association.
Oui, de plusieurs.
À l'hôpital notamment pour aller donner des tours de magie, enfin offrir des tours de magie à des enfants. Mmh. Il faut faire des dons d'ailleurs, je le précise, c'est
magie
très important.
Magie à l'hôpital, magieàl'hôpital.fr, vous trouverez toutes les informations.
On a besoin de ça. Ouais. J'ai l'impression que les enfants sont un lien avec déjà votre propre enfance, certes, mais surtout avec ce besoin de faire comprendre que c'est le moment le plus important de l'évolution de chaque être finalement, et qu'il faut préserver ça et rester attentif aux autres.
En fait, il y a des violences sociétales continuelles. Et une des violences sociétales les pires, c'est de classer les êtres. Pendant très longtemps, on a vécu dans une société patriarcale où la femme a moins d'importance que l'homme. Heureusement, ça commence, et je dis ça commence parce que c'est loin d'être arrivé, où il n'y a pas une considération égale entre femme et homme, et il n'y a pas de considération égale entre personnes adultes et enfants. Alors que tout se joue dans l'enfance. On le sait très très bien, le développement d'un humain, c'est entre 0 et 3 ans, entre 13 et 16. C'est les deux moments clés, vraiment, de la vie et de tout ce qui va constituer ta manière de vivre l'émotion, la réalité, etc. Donc ne pas considérer ces deux moments, c'est un acte d'une violence infinie. On a tous été violentés d'une manière ou d'une autre dans notre enfance, par le monde, par nos parents, mais contre leur gré, souvent. Et moi, j'ai un truc que je fais souvent, c'est un exercice de dialogue avec les enfants que j'ai été. Par exemple, je vais monter sur scène, c'est une histoire, je commençais en lévitation. Et donc, le rideau s'ouvrait, j'étais déjà en lévitation, à 3 mètres du sol, et j'invitais les enfants que j'ai été à venir partager ce moment avec moi. Je disais au petit Eric de 5 ans, viens voir, on est en train de voler, il y a 3000 personnes en face de nous, c'est dingue, non? Et j'invitais mon adolescente de 15 ans, et je dis, regarde ce qu'on est devenu, regarde ce qu'on vit ensemble. Et ça me crée des émotions incroyables, et ça me crée du dialogue intérieur, ça me crée un rapport aux autres, à chaque être, parce que mon adolescent prend la parole, parce que mon enfant de 5 ans prend la parole, et ça change tout, en fait. Ça change tout. Et quand je m'adresse aux enfants, je perçois très bien, évidemment, une intelligence que je n'ai plus, une manière de voir le monde qui me paraît un peu naïve, et en même temps qui est beaucoup plus belle souvent que celle qu'on a, nous, adultes.
Vous rendez hommage aussi aux femmes. Elles sont très peu nombreuses. Hein. Vous donnez le nom de celle qui finalement a encouragé un peu toutes les autres femmes au 19e siècle, ouais. Qui s'appelait
Benita Anguinet.
Voilà.
Ouais, et ça, c'est vraiment la première grande magicienne française connue, connue et reconnue. Ouais.
Elle a été d'ailleurs formée par son père. Ouais. 7 ans déjà, elle était sur scène avec lui. Et vous soulignez l'importance des assistantes. Vous dites qu'un grand magicien ne peut pas être grand magicien s'il n'a pas des assistantes qui sont très précises dans leurs gestes.
Très dévouées.
Vraiment, c'est quelque chose qui vous heurte aujourd'hui.
Oui, parce que quand j'ai commencé ce métier, souvent les assistantes étaient en rôle de potiche et vraiment c'était la femme objet. D'ailleurs, ça a toujours été ça. Et d'ailleurs, la télévision de l'époque, par exemple, quand j'ai repris le Juste Prix, il y avait des femmes potiches qui étaient réifiées. Voilà, c'était des objets à côté d'objets. Donc c'était des jolies potiches à côté d'objets. Et moi, ça m'est insupportable. Je pense sans doute grâce à ma mère qui m'a élevé un peu comme une femme, je pense. Elle était seule, elle élevait 3 enfants, c'était une femme. Donc nous a donné cette sensibilité féminine, cette intelligence qui était la sienne, ce courage aussi qui était le sien. Et donc pour moi, c'est très important. Et donc, avec mon ex-épouse, on avait créé un personnage qui s'appelait l'assistante mais pas soumise et qui montrait que c'était elle qui faisait tout le boulot.
Bah, elle était en noir, mais on ne voyait qu'elle. Enfin, voilà, c'était à mourir de rire.
Ouais, au début, il y avait Bernard qui se pensait invisible. Donc, elle jouait un homme qui se pensait invisible parce qu'il était habillé en noir. Puis après, il y a eu un autre spectacle où elle jouait vraiment l'assistante en paillettes, mais qui montrait que c'était elle, la bosse, quoi. Et ça nous a fait beaucoup rire de changer les paradigmes comme ça du travail.
Comment vous expliquez que depuis Benita Anguinet, il y ait très peu de femmes?
Il y a quelques femmes qui marquent vraiment le métier. Là, en ce moment, par exemple, il y a Léa Kyle, qui est génial en France, on a Alexandra Duvivier, on a Caroline Marx. Enfin, pour moi, la magie nouvelle, qui est un des plus beaux mouvements de magie, est créée par un homme et par une femme. Donc, il y a vraiment des femmes qui sont très importantes dans le métier de la magie, mais je crois qu'il y a un truc qui est vraiment autour de l'apprentissage de la magie, c'est-à-dire qu'il y a un côté gadget. C'est très des petits objets, des petits trucs, très. Je trouve qu'il y a un truc, tu sais, c'est comme, je dirais, c'est comme le prof de ski qui est maître de natation avec son petit sifflet. Enfin, il y a un côté un petit peu masculin dans la magie, qui est un peu caricatural, mais qui reste vrai. Et je crois qu'il y a un côté un peu geek aussi. Et donc, par culture et par éducation, c'est plus les garçons qui vont. Et d'ailleurs, c'est même pire que ça. Je dirais que c'est les garçons blancs de la petite bourgeoisie. Je dirais vraiment, c'est quand même assez restreint. Après, il y a heureusement d'autres exemples, heureusement d'autres sociétés, mais dans les sociétés européennes, c'est un peu ça.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une vraie dualité chez vous. C'est-à-dire que la magie, c'est ce qui nous permet de rêver, d'y croire. Voilà, vous le dites, que c'est cette capacité-là aussi de faire croire que ce que vous faites et ce que vous dites est la réalité. Et en même temps, en fait, il faut se méfier quand même de vous. Parce que vous bluffez, vous l'avouez. C'est comme un jeu de poker. Finalement, vous êtes un peu un joueur de poker. Vous pouvez être pickpocket. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je cache mon portefeuille. C'est un magicien truc. Est capable de tout faire, finalement.
Pas tout, mais beaucoup. Mais il y a un truc qui est assez génial et que j'adore, c'est les notions de pouvoir et de puissance. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est justement pouvoir faire des choses. Donc, pouvoir vous piquer votre montre, pouvoir vous faire croire que je lis dans votre pensée. Je pourrais vous faire un tirage de tarot meilleur que de la meilleure voyante que vous n'ayez jamais vue de votre vie. Parce que j'ai cette connaissance de ce qu'on appelle le cold reading, voir dans quel état sont les gens, avec par exemple sur des détails de vêtements, etc. Et puis d'aller chercher dans les techniques de mentalisme, on sait très bien comment manipuler les gens. Mais la puissance, c'est d'avoir du pouvoir, mais ne pas l'utiliser. Et je trouve que ce qui est terrible dans le monde aujourd'hui, c'est qu'il ne faudrait jamais donner le pouvoir aux gens qui veulent le pouvoir. Il faudrait vraiment.
Franchement, il y a des moments, c'est un peu engagé d'ailleurs, vous faites plaisir.
Oui.
Mais vous avez raison.
Oui.
C'est votre entièreté qui donne ça d'ailleurs.
Je trouve que cette société, étant en décrépitude, je trouve qu'il y a des illusions. Enfin, mon métier, c'est l'illusion. Donc, je vois l'illusion partout. Je vois les biais cognitifs partout. Et ce qui m'intéresse, c'est de les montrer, c'est de dire. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment un ouvrage que j'aimerais travailler un jour sur l'illusion de la démocratie, l'illusion de l'argent, l'illusion de la nourriture, l'illusion du temps, l'illusion de l'amour, du sentiment. On est pétri d'illusions. Donc, mon but, si je cherche la connaissance, c'est pour ça. C'est pour aller en quête de vérité. C'est vraiment mon obsession. Évidemment, à chaque fois que je découvre une vérité, je me rends compte qu'il y en a une autre derrière, et encore une autre derrière, et encore une autre derrière. Et puis que cette vérité est extrêmement subjective, évidemment. Déjà, le fait que je sois né quelque part, dans un certain pays, dans une certaine sexualité, dans une couleur de peau, voilà. Rien que ça, est complètement illusoire, et complètement subjectif.
Ce livre, Le dictionnaire jubilatoire de la magie de l'illusion, c'est une main tendue aussi pour ces enfants qui, justement, ont peut-être besoin de cette étincelle et d'un déclic pour se révéler à eux-mêmes.
J'y ai mis beaucoup d'humour, beaucoup de petites histoires, j'y ai mis des secrets de magie, parce que là, vous, Élodie, vous êtes terriblement fine. Donc, vous me posez des questions qui sont dans votre esprit à vous. Mais j'y ai mis aussi des choses qui sont très accessibles, très naïves. Moi, j'aime beaucoup la vulgarisation. Je suis un grand lecteur de livres scientifiques de vulgarisation. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui savent transmettre des choses complexes de manière simple. Et j'essaye de faire ça. J'essaye de garder une langue simple, une pensée qui reste toujours explicite. D'ailleurs, c'est beau explicite parce que dire expliquer, c'est déplier. Compliqué, ça veut dire mal plier. Donc,
vous racontez d'ailleurs l'histoire des mots, hein, abracadabra, d'où ça vient. Ouais. Voilà, je ne vais pas tout raconter parce que le but du jeu, c'est quand même qu'ils aillent récupérer cet ouvrage, mais c'est très intéressant. Il y a trois raisons.
Il y a au moins trois explications sur pourquoi ce mot abracadabra est devenu si connu dans la magie. Et ce qui est génial, c'est vrai que le verbe est magique. Le verbe, prononcer des mots, c'est amener une énergie, c'est amener une pensée au monde. Donc, je suis très attentif, par exemple, dès le moment où on a un discours qui va vers une violence, on crée de la violence. Rien que le verbe crée de la violence. Donc, je suis très attentif à ça. Et donc, la quête d'une histoire d'un mot me semble essentielle pour vraiment faire de la magie, justement, pour transformer le monde.
Vous avez démarré effectivement par le théâtre. Vous avez aussi étudié le mime, les jeux de clown. La clé, c'est quoi? C'est de garder cet esprit de saltimbanque. Il y a un côté Garcimore tout le temps qui est sur votre épaule. D'ailleurs, vous étiez fan de ce personnage.
Vraiment, qui a toujours un truc, en plus.
Et qui a su un jour, d'ailleurs, et ça vous a beaucoup touché, donner la valise qu'il s'était construite à un enfant parce qu'il était fasciné.
Ouais, dans les petites histoires que je raconte, je trouve que c'est une histoire qui raconte tout. C'est-à-dire ce type qui était la star française, qu'on maintenant malheureusement on a oublié, qui est malheureusement parti dans beaucoup de solitude, mais qui est une star énorme. Il y avait peu de chaînes, c'était le magicien le plus connu de France et tout le monde l'adorait, l'aimait. Et il va dans une boutique de magie où je me retrouve, moi, je dois avoir 12 ans ou 13 ans et je suis un peu éberlué. Je regarde les tours de magie et je vois Garcimore rentrer. Et il a créé une boîte de magie qu'il veut mettre en vente et il vient voir le patron de la boutique pour lui demander son avis, lui laisser l'exemplaire et travailler. Et puis c'est des heures de boulot, de minutie, de fabrication, de découpage, etc., le prototype. Et un enfant passe, il dit « C'est mon anniversaire, monsieur Garcimore, je suis juste au-dessus, ce que vous voulez bien monter ?» Il monte avec sa valise, il fait les tours de sa valise et il laisse sa valise en cadeau. Et je dis « Bah voilà, c'est ça que je veux faire, en fait. C'est ça que je veux être, en fait. » On me dit toujours, beaucoup de gamins, d'enfants me disent, on fait comment pour devenir connu? On fait comment pour être riche? On fait comment pour réussir? Et en fait, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être soi-même. Rendez-vous bien compte que ce qui vous rend heureux, c'est jamais la réussite décrite par la société. Ce qui vous rend heureux, c'est d'être ce que vous êtes. Donc, vous, Élodie, vous êtes une curieuse infinie, vous êtes une journaliste, vous êtes en quête de sens, etc. Donc, dès le moment où vous êtes en quête de sens, vous êtes heureuse. Et c'est ça qui compte. Et donc, c'est de chercher. Moi, je suis un curieux et je suis un fou. Donc, quand je suis fou et je suis curieux.
Vous dites d'ailleurs, il y a plein de personnes dans ma tête, c'est un joyeux bordel, mais on est super heureux, qu'est-ce qu'on se marre.
Dès le moment où j'essaye d'être sérieux, quand je suis le papa policier, quand je suis le mec qui gère des sociétés et tout ça, ça me rend triste comme un pou et je deviens insupportable. Je deviens obsessionnel, je deviens insupportable.
Comment vous vous protégez d'ailleurs? Parce que l'émotion, elle est vraiment à l'état pur. Même dans l'émission, il y a des moments où on vibre en même temps que vous. Je crois que c'est aussi ce qui fait votre force, c'est ce qui fait que vous êtes le magicien préféré des Français aujourd'hui, parce qu'avec le public, c'est quand même un sacré thermomètre.
En fait, j'ai du mal, j'ai mis beaucoup de temps à apprendre à me protéger. Encore aujourd'hui, j'ai du mal, c'est-à-dire j'ai un rapport quand même assez morbide à la nourriture et tout ça, dans les moments de problèmes de sommeil, de choses comme ça. Et en fait, ce qui me protège beaucoup aujourd'hui, mon épouse, je vous avoue que bah, là, je me suis remarié
d'ailleurs, toutes nos félicitations, mais c'est beaucoup. du moment de bonheur quand on sent que vous êtes sur un nuage.
Bah, c'est quelqu'un qui me regarde en fait, et c'est quelqu'un qui me rencontre, et je crois que j'ai l'appareil est vrai, c'est-à-dire que je crois qu'on a une écoute vis-à-vis de l'autre que j'ai jamais connue jusqu'à maintenant. Alors j'ai aimé, j'ai aimé mon ex-épouse, j'ai fait deux enfants magnifiques avec elle, c'était dans un amour fou, mais c'était pas le même moment de la vie, c'était pas la même. Là, j'entends dans cet amour, et donc c'est une qualité d'amour que j'essaye d'amener au monde, c'est-à-dire plus d'interprétation, plus d'arrêter de croire que l'autre est quelque chose que... Non, juste écouter ce qu'est l'autre, basta.
Merci beaucoup, Éric-Antoine, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Merci. Le dictionnaire jubilatoire de la magie et de l'illusion, c'est sorti chez HarperCollins. Vous avez donné des trucs, moi j'ai essayé, je crois que définitivement je suis très très mauvaise. Merci beaucoup.
Pour essayer. Merci Élodie.